Toute cette semaine, la Fabrique de l'Histoire vous parle de l'ex-Indochine française. C'était le cas hier et plus particulièrement, évidemment, à partir de ce soir et d'aujourd'hui, pardon, le Cambodge et aujourd'hui le documentaire autour de cette question de l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. Il y a 40 ans, très exactement, en janvier 1976, le Cambodge devenait, 9 mois après l'entrée des Khmers rouges dans la capitale Phnom Penh, le Kampuchea démocratique. La répression tournait à plein et le génocide était en route. Le documentaire de ce matin, signé Alain Lefkovitch et Séverine Cassard, est titré « Huis clos à Phnom Penh ». Il nous raconte, en effet, les quelques jours pendant lesquels, en avril 1975, des milliers de Français, d'Européens, mais aussi de Cambodgiens se sont réfugiés dans les jardins de l'ambassade de France pour fuir, justement, l'arrivée des Khmers rouges dans la capitale. Que devaient faire les autorités françaises de ces personnes? Les autoriser à venir avec les Français en France? Leur demander de quitter l'ambassade? C'est ce dilemme moral et politique qui est au cœur du documentaire de ce matin avec les témoignages de Bilong Ung, de Maria Macares, de Vanta Talisman, du docteur Nazir Abdul Karim, d'Arnaud Borel, de François Bizot, de Serra, de Claude Martin, de William Bourdon et de Charles Malo. C'est jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire.
La prise de Phnom Penh a commencé exactement à minuit. Minuit précise, tous les canons Khmer Rouge autour de Phnom Penh ont tonné au même moment. Et à ce moment-là, c'était évident que la ville allait être prise. Et là, je ne sais plus qui nous a dit « Partez immédiatement à l'ambassade de France, c'est le lieu de regroupement des étrangers ». Comme il n'y avait plus de place dans les locaux de l'ambassade de France, nous avons élu domicile sous une touffe de bambou où je suis resté 3 semaines.
Le 17 avril 1975, notre père vient nous voir et nous dit d'aller chercher nos affaires. Et là, nous sommes donc montés dans la voiture de fonction de mon père, qui était une coccinelle, et on a traversé un Phnom Penh qui était quasiment vide déjà. En arrivant devant le portail, je me rappelle juste d'avoir été poussé à l'intérieur de l'ambassade sans avoir pu me retourner, sans avoir pu croiser même le regard de mon père. Je me retrouve dans l'ambassade.
Huis clos à Phnom Penh, par Alain Lefkovitch et Séverine Cassard.
Donc j'arrive à l'ambassade. Le premier jour, il y avait 3000 réfugiés khmers à l'ambassade. Par crainte, par peur, ne sachant pas où aller, beaucoup ont sauté le petit muret qui entourait le parc de la représentation diplomatique.
Donc le matin, on a quitté l'appartement. On s'est dirigé vers l'ambassade de France. Il y a beaucoup de gens qui voulaient rentrer. On se dit, on franchit la frontière de la France, on est sauvés, mais bon, on saute pas de joie. Hein.
Quand Phnom Penh est tombé, nous étions dans l'ambassade de France. J'avais 19 ans et c'était mon premier reportage à l'étranger. On est ressorti et on a fait les photos du Khmer Rouge qui défilait dans la ville. Et puis très vite, on est retourné dans l'ambassade de France avec tout le monde. Et là, on se retrouva plusieurs centaines. Dans le bâtiment qui était la résidence de l'ambassadeur, il y avait tous les étrangers. Et les Cambodgiens, eux, se sont répartis dans les jardins et un autre bâtiment. Et on les traitait moyennement bien. C'était des étrangers. Nous, on était Européens. C'était toujours mieux.
Mon mari... Il est resté dans la pièce, il a dit qu'il a droit à l'asile politique et le vin. On lui a dit, vous ne pouvez plus rester là. La France ne peut pas vous garder, ne peut pas assurer votre sécurité, vous devez sortir.
3 jours avant la fin des hostilités au Vietnam, la presse française avait unanimement salué l'événement. Sans aucun doute, le dernier acte de l'histoire coloniale française. Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombait entre les mains des Khmers rouges après 5 longues années d'une guerre civile sanglante et meurtrière, opposant le gouvernement pro-américain du général Lon Nol et du prince Sirik Matak aux combattants d'un front uni que dirige depuis 1970 Sa Majesté Norodom Sihanouk, souverain déchu depuis son exil pékinois. Le chaos s'installe dans la capitale cambodgienne qui est vidée de ses habitants par les nouveaux maîtres du pays. Les chancelleries qui n'ont pas encore évacué sont prises d'assaut, à l'exception de l'ambassade de France, qui devient dès lors l'unique et l'ultime refuge pour ceux qui tentent d'échapper aux griffes des génocidaires de Pol Pot. Étrangers, dignitaires de l'ancien régime, franco-cambodgiens et amis de la France, tous convergent alors vers le boulevard Monivong. En quelques heures seulement, le portail de la mission diplomatique française est assailli. À la fin de la journée, ils seront plusieurs milliers à y avoir trouvé asile. Commence alors un bien étrange huis clos qui va se jouer jusqu'à l'évacuation totale et définitive de l'ambassade, 19 jours plus tard. Une période de crise pour le Quai d'Orsay et l'Élysée, durant laquelle la France va remettre à leur bourreau près de 850 Cambodgiens. Parmi cette foule d'anonymes contraintes d'affronter la folie meurtrière Khmer Rouge, certains hauts responsables de l'administration Lon Nol, comme le prince Sirik Matak, cousin du roi, ou encore Ung Bung Hor, président de l'Assemblée nationale. Ceux qui survécurent le firent dans le silence. Mais c'est justement ce silence assourdissant de la part des plus hautes autorités françaises qui a poussé Byung-Ung à leur demander des comptes devant la justice sur les circonstances qui ont poussé son défunt mari, Ung Bung Hor, à sortir de l'ambassade de France 3 jours après son arrivée pour être remis entre les mains de ses meurtriers. En 1999, la France se voyait ainsi accusée, entre autres, de non-assistance à personne en danger de mort certaine. 40 ans après les faits, la justice s'est prononcée et a tranché. L'histoire, avec un grand H, jugera, les consciences des protagonistes d'alors aussi.
J'ai quitté le Cambodge le 9 avril 1975 et je suis arrivée à Paris le 10 avril et j'ai laissé mon mari, malgré moi.
Bilong Ung, veuve de Ung Bung Hor, président de l'Assemblée nationale du Cambodge sous le gouvernement du général Lon Nol.
Je lui avais demandé de partir avec moi, vu la situation. Il m'a répondu, tu vois, je peux partir avec toi, mais plus tard, quand il n'y aura plus la guerre, les gens qui n'ont pas pu partir, qu'est-ce que je vais leur répondre? Je ne pourrai jamais les regarder en face. Donc, tant pis pour moi, j'ai été élue par le peuple, tant pis pour moi si je dois y rester.
Maria Macares, réfugiée de l'ambassade.
On était partis sur la route kilomètre 6. On a marché une journée, bien sûr, on se tenait la main pour ne pas se perdre, hein, parce que c'était l'exode. Et on dormait dans la rue. Et puis un jour, la voiture de l'ambassade était passée par là. J'avais bien sûr mes papiers, donc j'étais avec ma mère. Je suis donc de mère cambodgienne et de père français. La voiture était suivie d'une autre voiture où il y a une personnalité Khmer Rouge. C'était une Mercedes, je crois, et ils m'ont dit, bon, écoutez, nous, on est venus avec une liste de personnes à prendre. Vous n'êtes pas sur la liste. Ce qu'on peut faire, c'est retourner à Phnom Penh, demander une autorisation pour vous et revenir vous reprendre.
On dit que les Américains vont venir bombarder tout ça. Bon, on sait très bien, c'est des mensonges, tout ça, mais on est menacé par des armes, donc on obéit.
Vanta Talisman, comédienne et artiste cambodgienne, rescapée du génocide.
Donc le matin, on a quitté l'appartement, on s'est dirigé vers l'ambassade de France. Nous, on parle français parce qu'on a commencé nos études au lycée Descartes. Et comme ma petite sœur, elle a son passeport pour venir en France et par malheur, il n'y avait plus d'avion. Il nous a laissé passer, etc. Donc on campait dans le jardin, il y avait plein de monde déjà, tout ça. On a passé quelques nuits, je ne sais pas combien de temps, peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas.
Docteur Nassir Abdul Karim, réfugié de l'ambassade.
À une centaine de mètres du portail, il y avait une grosse épaisseur de gens et la porte était fermée, il y avait quelques gendarmes devant. Du coup, ma mère, elle a fendu la foule pour pouvoir entrer. Et là, le gendarme avait dit, oui, vous ne pouvez pas entrer parce que on ne fait entrer que les Français, etc. Alors que ma mère est eurasienne. Et en même temps, elle a vraiment tapé les gendarmes, elle a fait le forcing, et c'est là que le consul lui a dit « Très bien, vous pouvez rentrer, mais sans votre mère ». Donc on a pris la 404, et ma grand-mère, qui était assez fine, elle s'est cachée sous l'emplacement là où j'avais mes pieds, puisque j'avais à peine 9 ans, et on est rentré. Ils n'ont pas fouillé. On s'est trouvé une place, quelque part, dans le jardin de l'ambassade, et au bout d'un certain temps, quand on n'avait plus rien à manger, je me souviens que tout ce qui traînait a dû être consommé. Il y avait un berger allemand, un ou deux singes, et des porcs. Et comme je ne mange pas de porc, j'ai mangé quelques feuilles de tamarin. Et autour de moi, j'avais un groupe d'hommes qui me proposaient de manger de l'éléphant et des œufs de fourmis. Et je me souviens que quand j'étais rentré, il y avait un mort. Je crois que c'était un homme qui a dû se prendre une balle dans le cou. Et ils l'ont sûrement dû l'enterrer pas loin dans l'endroit où on était. Et à cet endroit-là, il y avait un petit peu d'eau qui coulait. Donc on ne pouvait pas boire puisque je pense que le mort était pas loin.
La première nuit, je me rappelle très clairement de la première nuit que je passe à l'ambassade, je la passais sur le balcon. Il y avait un balcon, enfin un balcon, une terrasse à l'entrée du bâtiment principal.
Serra, artiste et auteur de bande dessinée franco-cambodgien.
Dans la nuit, on entend des bruits réguliers de sandales sur le bitume. Et c'est l'entrée des Khmers Rouges en rang dans Phnom Penh, la nuit. Ce défilé de gens noirs, sans un seul mot échangé, ça c'est une vision marquante. Il ne va pas se passer énormément de choses durant ces 15 jours, à peu près, donc, si ce n'est que toujours les bruits, essayer de comprendre ce qui se passe, la faim qui commence à arriver. Les Khmers Rouges nous apportent des cochons, et je me rappelle d'être incapable de manger cette viande parce que ce pauvre cochon que j'ai aidé à attraper, je n'arrivais pas à accepter l'idée de le manger ensuite. Donc on avait un petit chien et je donnais toute ma part de viande à ce petit chien pendant tout ce temps où cette viande était là.
François Bizot, anthropologue et spécialiste du bouddhisme à l'école française d'Extrême-Orient, en poste alors au Cambodge, ancien prisonnier des Khmers Rouges et auteur d'un récit autobiographique intitulé « Le portail ».
Très vite, la question des sanitaires s'est posée. Et puis très vite, il y a eu des épidémies de dysenterie. Et puis c'était d'une saleté, vous imaginez, au bout de 2-3 jours, ce que ça représente. Donc il y a eu nécessairement une organisation et des gens qui ont été chargés de faire ça, oui. Et puis une partie aussi de la résidence de l'ambassadeur, puisque ça faisait belle lurette qu'il n'y avait plus d'ambassadeur de France, avait tout de suite été réquisitionnée par des groupes comme par exemple certaines associations, les journalistes, etc. Il y avait la chancellerie, enfin, il y avait des quartiers comme ça où les gens s'est organisés un petit peu par identification.
Alors déjà il y a une sorte de tension entre les journalistes européens et les Français qui sont dans l'ambassade, qui sont des réfugiés. Il y avait un type qui avait un restaurant, il y avait et le personnel de l'ambassade, une sorte d'incompréhension entre nous.
Arnaud Borel, photojournaliste français réfugié à l'ambassade.
Parce qu'il ne faut surtout pas parler aux journalistes. C'est une vieille habitude française de ne pas parler. Parce qu'ils sont dépassés. Parce qu'aucun, au fond, n'a été taillé pour ce boulot-là. Ils se sont retrouvés... Je parle des gens qui y dirigent, je ne parle pas des deux gendarmes qui sont des braves gens, qui obéissent aux ordres. Et nous, on est un peu indisciplinés. Je me souviens qu'au tout début, on faisait le mur par l'arrière de l'ambassade pour aller chercher de l'herbe qui se fume. Et au début, on a bu l'eau de condensation de la climatisation. Ce qui n'est pas très bon. Enfin bon, c'était moins pire que ce que buvaient les Cambodgiens. Et puis après, on a commencé à avoir du riz. Donc on avait une boulette de riz par 24 heures, grosso modo. Alors je ne sais plus si c'est les Khmers Rouges qui nous ont amené du riz. Par contre, je sais que c'est les Khmers Rouges qui amenaient l'eau pour faire cuire le riz, et on faisait cuire le riz dans des marmites comme des scouts. Et pour l'anecdote, quelques jours après qu'on soit réfugié, il y a un groupe, je ne sais plus de quelle nationalité, peut-être suisse, qui sont arrivés 2 ou 3 jours après que la ville soit tombée. Et on a papoté avec eux, on leur a expliqué, ils nous ont demandé comment ça se passait, on leur a demandé comment ça s'était passé pour eux, et à la fin on a dit, et alors pour manger l'eau, tout ça. On a dit, ben c'est simple, au bout de l'avenue Monivong, il y a un pont, et on voit le camion aller pomper l'eau à droite du pont. On a dit, ah oui, là, c'est là où il y a tous les cadavres. Par contre, on avait les caves de l'ambassadeur à notre disposition. Donc on faisait champagne, tous les jours. Enfin, je me suis dit, au bout d'un moment, l'estomac vide, le demi-verre de champagne suffit à vous rendre très joyeux. Et moi, j'avais 19 ans, enfin, j'ai fait mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 12 avril. J'ai 75, donc j'ai eu 20 ans le 12 avril. Donc j'étais vraiment un môme. Mais j'ai rigolé aussi, je me suis amusé avec un photographe dont le nom m'échappe. C'est pas bien que son nom m'échappe. On s'est amusé à faire du stock-car avec une 504 ou une 404 à l'intérieur des jardins. Jusqu'au jour où on l'a cassé la voiture. Mais enfin bon, on s'occupait.
Évidemment, on pouvait circuler comme bon nous semblait, quelque part. Mais je ne me rappelle pas avoir mis les pieds dans l'enceinte même de la chancellerie ou dans d'autres bâtiments de l'ambassade. J'étais dehors et c'était là où était ma place. Évidemment, par tranche d'âge, les gens se retrouvaient, les jeunes étaient ensemble, les moins jeunes, etc. Mais je me rappelle de long moment à attendre et une solitude parce qu'il n'y avait que ça.
Donc, pendant que le consul, lui, exprimait ses desiderata et que les Khmers rouges l'écoutaient,
François Bizot,
il y a eu des difficultés de traduction. J'ai donc été amené à devenir l'interprète officiel entre le poste Khmer rouge qui s'est établi dans l'ambassade de Corée, juste en face de celle de l'ambassade de France, de l'autre côté de la rue, et puis le petit staff que le consul avait composé autour de lui. Jean Dirac avait eu cette grande... c'était une chance, je crois, pour la communauté des étrangers qui étaient réunis dans l'enceinte de l'ambassade, d'avoir quelqu'un comme lui qui ne s'est pas enferré à vouloir prendre des décisions lui-même.
C'était deux groupes distincts.
Arnaud Borel.
Les Cambodgiens venaient pas nous voir et moi, j'ai jamais été parlé avec les gens que les Khmers rouges voulaient. J'avais pas de raison, je les connaissais pas. J'étais pas là depuis très très longtemps. Et puis j'étais photographe, je faisais pas dans le gris.
Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée le 17 avril aussi de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Oum Boung Hor, accompagné d'un autre ministre et de quelques autres personnes?
Oui, il y avait une sorte d'émeute aux grilles. La sécurité de l'ambassade, c'est deux gendarmes. Et c'est une foule dehors. Et si vous repoussez quelqu'un à gauche, ils rentreront par la droite. Donc ils sont rentrés. Et puis se sont fondus dans la masse. J'ai le souvenir de leur arrivée, mais j'ai pas le souvenir de les avoir revus après, jusqu'à leur départ.
Claude Martin, un des 9 membres du cabinet de Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires étrangères au moment des faits.
Les Cambodgiens avaient l'impression qu'ils pouvaient rentrer. Et c'était à nous, au fond, de dire aux Cambodgiens, ici, il n'y a aucune protection pour vous, ce qui était insupportable. Mais ils ont tous un lien. Il y en a un qui dit qu'il a été dans l'armée française il y a 20 ans. Il y en a un autre qui a sa fille à Paris, l'autre qui est bon. Et puis, il y avait des amis à l'intérieur. Hein. Donc, les Français eux-mêmes s'interposaient en disant, mais faites rentrer celui-là. Et puis, il y a ceux, au contraire, qui disaient, ah non, pas de Cambodgiens. Sinon, les Khmers rouges vont rentrer dans l'ambassade, vont nous exécuter. Donc, il y avait à l'intérieur même de l'ambassade un chaos. Mais pour nous, pour moi, à Paris, le débat était simple. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver nos compatriotes? Parce que c'est d'abord ça. Hein. Aujourd'hui, on déploie des forces considérables et on dépense des millions d'euros pour sauver un otage. Bon, là, il y en avait 3 000.
Télégramme diplomatique numéro 586, Phnom Penh, le 17 avril 1975, 12h45. Objet, asile diplomatique.
Monsieur Oum Boung Hor, actuellement président de l'Assemblée nationale Khmer, a forcé l'entrée de notre ambassade ce matin. Il a excipé du droit d'asile pour la protection immédiate de sa vie. J'ai tenté, mais en vain, de le refouler. Par ailleurs, le prince Sirik Matak a cherché à me joindre par communication téléphonique pour obtenir également le droit d'asile. Je serai reconnaissant au département de bien vouloir me faire savoir d'extrême urgence la conduite à adopter à leur égard, dans l'hypothèse où les nouvelles autorités demanderaient à ce que ces personnalités leur soient livrées. Jean Dirac.
Il s'est réfugié, rentré dans l'ambassade de France le 17 avril.
Bilong Hong.
Il n'y avait pas seulement lui, il y avait le prince Sirik Matak, le ministre M. Lurnal, une des compagnes de Nora Dampiano qui était une laotienne, avec sa propre fille, son gendre, ses petits-enfants, avec mon mari, ils ont été cachés dans une pièce de l'ambassade. Et parmi les 1000 et quelques personnes, c'est-à-dire asiatiques et européens, personne ne savait qui pouvait se trouver là. Personne ne savait. Le Quai d'Orsay a répondu, faites établir la liste des noms des personnalités pour leur donner, pour remettre au Khmer Rouge, le cas échéant. Évidemment, tous les télégrammes envoyés et reçus passaient tous sous le président de la République, qui était Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, ainsi que monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Sauvagnargues, qui est mort maintenant.
Télégramme diplomatique numéro 595, Phnom Penh, 18 avril 1975, 15h18. Objet, asile politique.
Suite ultimatum de la délégation du comité de la ville. je me trouve dans l'obligation, afin d'assurer la sauvegarde de nos compatriotes, de faire figurer sur la liste les personnalités présentes dans l'ambassade. Sauf ordre express et immédiat du département m'enjoignant d'accorder l'asile politique, je devrais, dans un délai qui ne pourra excéder 24 heures, livrer le nom de ces personnalités. Répondre par télégramme clair. Oui, si je dois les livrer. Non, si je dois m'abstenir. Jean Dirac.
Donc, M. Claude Martin a répondu à M. Dirac, le droit d'asile sur le plan international n'existe pas. Vous direz à ces hautes personnalités de sortir de notre territoire, qu'ils s'arrangent comme ils peuvent, qu'ils sortent. Et tous les télégrammes du Quai d'Orsay et Phnom Penh Quai d'Orsay étaient envoyés en communiqué pour information au prince Norodom Sihanouk à Pékin pour information et avis. Pourquoi le Quai d'Orsay ne dépend pas de Norodom Sihanouk, qui était chef de l'État des Khmers Rouges? C'est de là que je condamne et que je, comment on dit, j'accuse la France de M. Giscard d'Estaing, Chirac, Claude Martin, d'amener la France complice du régime Khmer Rouge.
À un moment donné, Niem, le responsable Khmer Rouge, m'a montré une liste et m'a dit « il faut que ces gens quittent l'ambassade ».
François Bizot.
Je pensais qu'ils étaient trompés. Je ne savais pas tout ça. Je me suis rendu compte, en parlant au consul, que c'était vrai. La décision a été prise de s'en remettre aux intéressés eux-mêmes, en leur disant, pour simplifier, où vous restez, où vous partez. Dans tous les cas, les Khmers Rouges seront là. Si vous sortez, bon, et si vous ne voulez pas sortir, ils viendront vous chercher. C'était exactement ce que Niem m'avait dit. Je n'en doutais personnellement absolument pas. Et c'était inconcevable d'imaginer qu'on puisse protéger, sous prétexte d'extraterritorialité, des personnalités opposées aux vainqueurs, simplement parce qu'il y aurait des lois internationales, d'autant plus que la France n'avait signé aucune convention avec les Khmers Rouges de ce type. Donc, cette idée-là ne pouvait pas être tenue. Bien sûr, encore une fois, le mensonge est toujours là. Ils auront un procès équitable. Et ils avaient une liste assez précise des gens qui étaient là.
Mais alors, justement, ils l'ont eu comment, cette liste?
Ah, ça, j'ignore. Mais probablement qu'il devait avoir, parmi les réfugiés qui sont rentrés dans l'ambassade, des gens qui devaient aussi être là pour les renseigner. J'imagine. Enfin, c'est une hypothèse.
On ne voyait pas ce qui se passait à l'autre bout de l'ambassade. Ung Bohor, comme Cyril Mata, qui étaient dans des bâtiments à l'écart.
C'est rare.
Ce qui nous a marqué, nous, évidemment, ça a été quand, au lendemain de leur expulsion, tous les Cambodgiens ont été sommés de quitter l'enceinte de l'ambassade, dont mon père, qui était donc rentré en faisant le mur à l'arrière. Et donc, ça a été une matinée très difficile.
Claude Martin, Phnom Penh tombe entre les mains des Khmers Rouges. Ça implique quoi pour la diplomatie française à l'époque?
C'était un événement prévisible. Et c'était un événement qu'on n'avait malheureusement pas préparé.
Évincé du pouvoir en 1970 par le pro-américain Lon Nol, Sihanouk s'exile en Chine, où il organise la résistance avec l'aide de tous les maquis opposés au nouveau pouvoir, et parmi eux, les Khmers Rouges. Réal politique oblige, la France lâche son allié de toujours et tente de préserver son précaré en Asie du Sud-Est. Malgré la volonté de Claude Martin de fermer la représentation diplomatique française et de rompre avec le gouvernement Lon Nol, à l'ambassade, on instaure un service minimum. Un vice-consul sans véritable prérogative et un personnel réduit à son plus strict minimum pour assurer l'intendance. Le 17 avril 1975, pour les Khmers Rouges, la France est un pays ennemi. Jean Dirac, le vice-consul, en est le représentant à Phnom Penh.
L'ambassade est pour nous un lieu sacré encore, il y a le drapeau français qui... Pour les gens qui viennent d'arriver, c'est un terrain dans lequel il y a des étrangers qu'on hésite à envahir. Toutes les autres ambassades ont été en quelques jours saccagées, détruites, pulvérisées au bazooka. Et tout d'un coup, les Khmers rouges ont choisi non seulement de respecter l'enceinte de l'ambassade, ou de ce qui était l'ambassade, mais d'y mettre tous les étrangers.
C'est une décision des Khmers rouges.
Oui, c'est-à-dire que le vice-consul, Jean Dirac, nous dit, voilà, il y a des gens qui sont venus à la porte et qui nous ont dit, nous ne rentrerons pas chez vous, mais n'acceptez pas de Cambodgiens, sinon on sera obligé de rentrer. C'est la règle que nous avons fixée en ce qui vous concerne. Alors, qui a pris cette décision? Malheureusement, la seule possibilité pour sauver nos compatriotes et les autres étrangers qui étaient placés sous notre garde, c'était de respecter, malheureusement, le deal, qui n'était pas un accord, mais qui était « vous allez nous respecter, bon, on va prévenir les Cambodgiens qu'on ne peut pas les protéger, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas leur dire de sortir, on ne va pas leur dire de ne pas entrer, on ne va pas faire le coup de poing contre eux, on va les prévenir. Non seulement on ne peut pas vous protéger, mais en entrant ici, vous entrez dans un piège, parce que du coup, ils vont voir quand vous allez sortir. Donc, profitez de ce que vous pouvez encore un petit peu galoper dans Phnom Penh pour aller vous mettre à l'abri quelque part. On ne savait pas s'il n'y avait pas des poches de résistance, des cachettes, en tout cas moins exposées que l'ambassade.
Donc, sans passeport, on ne reste pas à l'ambassade. Khmer et sans passeport, c'est son arrêt de mort, là, hein, c'est certain.
Et puis, un jour, les Cambodgiens sont tous partis.
Arnaud Borel.
Il est resté à l'intérieur de l'ambassade quelques Cambodgiens qui s'étaient cachés. Il y avait une jeune femme et le patron de la Croix-Rouge pour le Cambodge. Il s'arrachait les cheveux parce qu'il avait quitté son ambassade et il n'avait pas emmené une pile de passeport et un tampon. Et un soir, en discutant, j'avais dit si je peux faire quelque chose. Et le lendemain matin, il m'a réveillé en me disant « tu te maries ». Donc je me suis retrouvé avec cette fille que lui connaissait. Il a fallu un peu insister auprès de l'ambassade. On avait déjà eu un ennui avec un photographe qui avait adopté une petite Cambodgienne. Et la réponse de l'ambassade, ça avait été « les enfants, on n'en a rien à foutre ». Donc on avait fait une sorte de manifestation devant l'ambassade qui les avait fait plier. À la suite de quoi, quand je suis arrivé pour le mariage, on a remis un petit coup, mais le pli était pris, donc nous nous sommes mariés. Elle a eu un passeport français et elle a pu sortir. C'est le consul de France qui nous a mariés. Donc on aurait peut-être pu distribuer un peu plus de passeports français. Et pour l'anecdote, il nous marie, on fait demi-tour pour quitter la salle. Et il fait, mais vous, le marié et la mariée ne s'embrassent pas. Bon, on s'est embrassé. Il n'y avait que ça pour lui faire plaisir. Ceci dit, c'était pas facile. On peut toujours dire après, c'était facile de distribuer des passeports. Vous distribuez pas à des Cambodgiens connus un passeport français, ça ne peut pas marcher. Et donc, comme vous pouvez pas distribuer 1600 passeports, vous les distribuez à qui? Donc c'était moralement condamnable, mais techniquement insolvable.
À ma connaissance, aucun des maris Khmer, mariés à des Françaises ou à des Italiennes, n'ont pu obtenir le moindre passeport. Pas un seul. Mais j'ai su que des journalistes avaient permis à des femmes d'obtenir des papiers. Donc ça, c'est une chose qui me révolte assez. L'ambassade de France, de l'époque, n'a pas fait le moindre effort pour protéger qui que ce soit. Si ce n'est donc faire plaisir à quelques-uns de leurs protégés. Et ça, c'est une chose qui me heurte encore aujourd'hui.
D'ailleurs, si vous lisez dans l'Express de M. Philippe Brossard,
Bilong Ong,
il y a un monsieur qui avait dit qu'il avait voulu se marier rien que pour la forme, pour sauver une femme khmer, et Dirac avait refusé. Et il est revenu avec 200 passeports vierges.
Télégramme diplomatique numéro 589. Paris, le 17 avril 1975, 19h26. Objet, Cambodge.
Le représentant du GRUNC en France, M. Ok Sokhun, a été convoqué cet après-midi à 17h30 par le directeur des affaires politiques. Vous pouvez faire état de cette démarche auprès des interlocuteurs avec lesquels vous êtes en contact. M. Ok Sokhun a été prié par ailleurs de nous communiquer dans les meilleurs délais l'identité des nouvelles autorités auxquelles vous pourrez officiellement vous adresser.
Encore là, vous voyez, il y a encore un magouille de trucage. Le 17 avril même, le Quai d'Orsay avait convoqué le représentant des Khmers Rouges, M. Ok Sokhun, à Paris, pour lui demander de ne pas faire de problème à l'ambassade. Mais ça, seulement les six Personne de la cellule de réflexion, ainsi que Jean Dirac, le consul, savait. Les autres, les mille et quelques autres, personne ne le savait. Donc, on maintenait l'ambiance de peur. L'abbé Ponchot, François Ponchot, il avait dit dans le journal Cambodge Soir, qu'il y avait dans il y a quelque temps, quelqu'un de nous l'ont dénoncé. Qui ? Il a dit, je ne sais pas. Avec la liste précise des noms, Ung Bun Or, Sirik Matag, Lung Nal, qui a pu les dénoncer ?
Au niveau du courage, putain c'est Eric Rack, diplomate à plein ventre, devant l'armée macaque. Ils ont laissé tuer le prince Sirik Matag pour sauver l'ambassade d'une éventuelle attaque. Non, ce n'est pas du cinéma comme dans la déchirure, car la réalité, elle fut 100 fois plus dure. C'est ce que tu m'as dit dans ton salon de coiffure. Brigitte Bardot, cambodgienne, échappée de la dictature. Brigitte Bardot, cambodgienne, cette chanson elle est pour toi, exilée de Phnom Penh.
Quant au problème du président de l'Assemblée nationale, dans la plainte qui a été déposée par son épouse, que je peux comprendre bien sûr, on voit une photo. J'ai oublié le nom du photographe qui a pris cette photo.
On ne le connaît pas.
Oui, on ne le connaît pas. Cette photo, c'est une photo qui est prise à 2 mètres, 3 mètres. On voit deux gendarmes qui tiennent M. Ung Bun Or. Et ça ne peut être qu'une photo qui a été prise quand il est rentré à l'ambassade. Certainement pas quand il est sorti. Parce que quand il est sorti, il n'y avait personne, absolument personne. C'est une décision qui avait été prise à la demande des Khmers Rouges. Et le consul avait pris beaucoup de précautions pour que ça soit respecté, par crainte qu'il y ait encore des problèmes, voyez-vous. À la rigueur, il pouvait y avoir un photographe qui se cache de loin avec un tel objectif, mais ce n'est pas une photo qui est prise au tel objectif. Donc cette photo-là n'est pas du tout une preuve. Monsieur Ung Bun Or est sorti, mais n'a été forcé par personne. C'est une décision qu'il a prise forcée par lui-même, en quelque sorte, ou par les autres qui, eux, avaient décidé de partir.
Alors pourquoi il y a cette polémique sur justement cette photo ? Ça change quoi, le fait de savoir que cette photo soit prise avant ou après ?
Ça change que ça donne une sorte de preuve ou de justification. En tout cas, ça peut être invoqué par les personnes qui disent que la France aurait livré, que les gendarmes ont forcé les personnalités cambodgiennes à sortir. Et c'est difficile d'accepter ça, parce que c'est pas ce qui s'est produit. En même temps, je dirais avec une immense tristesse que quelques-uns sont sortis contents. C'était les enfants qui étaient avec la première femme de Sihanouk, qui, eux, étaient dans une pièce depuis déjà 2 jours, 3 jours sans oser sortir, et sans devoir faire trop de bruit. Peut-être qu'on leur avait servi un discours approprié, mais en tout cas, ils étaient plutôt joyeux de partir.
Télégramme diplomatique numéro 608, Phnom Penh, 20 avril 1975. 14h44. Objet, départ de réfugiés.
Le prince Sirik Matak et les personnels cités en référence se sont présentés de façon très digne cet après-midi à un comité non identifié, venu les accueillir en jeep devant les grilles de l'ambassade. Une centaine d'autres ressortissants cambodgiens envisagent de se constituer prisonniers demain matin. Jean Dirac.
Il faut savoir que les Khmers Rouges, sachant que c'est une personnalité du régime de Lon Nol, il aura une séance spéciale de torture. Et donc, quand ils l'ont sorti, ils lui ont dit « Non, je ne veux pas sortir ». Le prince Sirik Matak aussi avait dit « Mais on n'a pas dit ». Mais je sais qu'il avait dit « Nous avons droit à l'asile politique ». Et comme mon mari criait fort, un des docteurs du cellule de réflexion lui a fait une injection pour l'endormir, pour qu'il ne crie plus. Et alors, évidemment, mon mari est sorti en titubant, la peur. Plus, il n'avait rien mangé pendant ces 3 jours.
Alors, il y a une célèbre photo, puisque vous, vous êtes en France le 20 avril 1975, et vous assistez au journal télévisé à l'expulsion de votre mari de l'ambassade de France. Comment ça se passe ?
J'avais vu, en photo arrêtée, hein, mon mari, debout, et ma fille, surtout ma fille qui était petite et qui ne comprenait pas encore le français, est allée entourer de ses bras le poste de télévision et avait embrassé l'écran en disant « Maman, maman !» Et elle appelait ses trois frères « Regarde, c'est papa, tu vois, il va venir nous rejoindre. » Elle est venue me tirer la main pour que je puisse regarder. Et elle n'avait pas compris qu'on le sortait pour le remettre au Khmer Rouge.
Pour nous, le coupable le plus facile à voir, c'était le consul de France et les gens qui l'entouraient.
Arnaud Borel.
C'est une traîtrise d'abandonner ces gens-là. Mais on a passé notre vie à abandonner les Indochinois, les Algériens. On a toujours fait ça. C'est pas pour ça que c'est bien. Hein. D'un autre côté, quand on y réfléchit, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Est-ce qu'il fallait aller au clash et dire aux Khmer Rouges, venez les prendre ? Peut-être. Ils seraient rentrés, peut-être, sûrement même. Ou peut-être pas. Mais ils ne les auraient pas laissés sortir. On serait peut-être restés plus longtemps. On aurait pu rester un peu plus longtemps.
Moi, je n'ai qu'une connaissance écrite de la situation, c'est les télégrammes du consul, hein, qui, lui, nous dit, ils sont partis sans violence.
Claude Martin.
Donc, moi, je suis toujours convaincu qu'ils sont sortis volontairement, en tout cas ceux dont on parle. Bon. Il y a eu des Cambodgiens moins illustres, mais à mes yeux, tout aussi respectables, tout aussi humainement valables, qui ont eu un mouvement d'angoisse au moment de sortir de l'ambassade et qui ont été un peu violents. Non, ne me livrez pas au Khmer Rouge. C'est une situation impossible. Moi, j'aurais pas voulu être là. Je sais pas si je l'aurais fait. Mais la question se pose de savoir si on aurait effectivement pas pu, à ce moment-là, choisir l'autre option. L'option de l'intervention était totalement inimaginable. L'aéroport de Phnom Penh était détruit. On s'est dit, alors, dans quel film allons-nous nous plonger? C'était totalement irréaliste. Par rapport à des Khmer Rouges qui étaient, ils n'étaient pas très armés, ils apparaissaient plutôt gentils en plus. Il y avait quelques tanks, mais qui étaient des tanks vietnamiens, européens. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on peut pas, avec notre fantastique puissance de l'armée française, à partir de la Thaïlande, voire d'un porte-avions, enfin tout ça était du cinéma. Hein. Donc l'autre option, c'était de garder nos hôtes cambodgiens, même si on les avait prévenus de tout, puis de dire aux Khmer Rouges, entrez, massacrez tout le monde. Donc la formule de la solidarité totale, humainement extrêmement satisfaisante, contre laquelle la majorité des gens qui étaient dans l'ambassade étaient prêts à s'insurger, à faire le coup de poing, c'était intenable à l'intérieur de l'ambassade, la situation.
Mais qui décide, parce que quel est le rôle du président de la République à l'époque, Giscard d'Estaing ?
Les instructions, elles ont été approuvées du haut en bas de la hiérarchie.
Mon père a été très calme, il nous a pris les uns après les autres, mon grand frère, moi, ma sœur,
Sarah,
pour leur dire un dernier mot et il est parti tranquillement. Et en fait, tous les Khmers qui ont quitté l'ambassade, contrairement à ce qui est écrit, n'ont pas été dirigés sur la route du Nord directement, ils ont été tous regroupés dans le vieux stade Lambert, l'ancien stade olympique. Et ils sont restés au moins un mois.
Comme au Veldiv.
Plus petit qu'au Veldiv, mais c'est un peu ça l'idée. Je n'ai pas de détails sur ce qui s'est passé dans cette enceinte. Je sais que donc tous les Khmers qui étaient dans l'ambassade ont été regroupés là-bas. Je pense qu'il y a eu un premier travail de filtrage de la part des Khmers Rouges. Il ne faut pas oublier que dans l'enceinte de l'ambassade, il y avait une centaine de soldats du Fulro, des combattants montagnards qui se considéraient pas comme cambodgiens et qui ont pourtant été donc contraints de quitter l'ambassade, qui, à mon avis, n'ont pas dû connaître un destin des plus joyeux.
Et un jour, ils disent qu'on est obligé de sortir parce qu'on est des Cambodgiens et pas français. Et ils nous distribuent des médicaments, des quinines.
Venta talisman.
Ils disent « Gardez-les précieusement, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous, tout ça. » Et le matin, de bonne heure, on est parti comme ça, en ligne. Et il y avait des Français qui se mettent en ligne, une façon de dire au revoir, tout ça, quoi. Et j'ai aperçu mon professeur d'histoire géo. J'ai baissé la tête pour qu'il ne me voie pas. À la sortie de l'ambassade, les Khmers Rouges nous demandaient de monter dans un camion. Et après, il nous a laissé pas très loin de là, c'est à Stadia, ça s'appelle, l'ancien stade, ça veut dire,
qui est à 5 minutes en voiture. Les gens ont peur, ils se disent on va se faire fusiller ou torturer. Ou... De temps en temps, il y a des camions ou des bus qui viennent chercher une partie, plusieurs jours étalonnés comme ça. Et nous, on fait partie des derniers. Et on est monté dans le bus et après, il nous fait descendre là où il commençait à avoir plein de monde à pied sur la route, tout ça. Ils disent continuez le chemin, faites ce qu'on vous demande de faire et voilà. Un jour, je marchais et quelques heures après, je vois des cadavres par-ci, par-là. Donc, au fond de moi, j'ai dit, ça y est, j'ai franchi la porte de l'enfer. Voilà.
Les réfugiés, ils prenaient pas beaucoup de place, même si c'était de loin les plus nombreux. Donc, le départ des réfugiés nous a effectivement fait un peu plus de place. On s'est réorganisé autrement, mais ça n'a pas fait retomber les craintes de tout le monde. Et d'ailleurs, ensuite, s'est présentée l'idée d'un départ en convoi de camions.
Au lendemain de l'éviction de tous les Khmers de l'ambassade, tous les enfants métis ont été réunis sous le soleil avec ce Khmer rouge qui était... J'ai une image en tête, mais si ça se trouve, il y a eu plusieurs Khmers rouges, mais j'ai ce Khmer rouge sous les yeux. Et qui passe l'après-midi à éplucher nos passeports pour essayer de savoir si on était digne ou non de participer à cette révolution. J'ai cette image de toutes ces mères qui sont seules, qui pleurent. Personne n'est là pour les rassurer, pour leur venir en aide. Les autorités françaises sont totalement absentes. Je vous parle même pas des stars comme Poncho et autres. Il n'y a plus personne. Et donc on a eu ce moment de vie en suspens entre deux. À la fin de l'après-midi, il a décidé, ce personnage, qu'on n'en était pas digne et qu'on pouvait repartir avec tous les étrangers. Voilà, ça c'est une chose qui a été très marquante dans ce vécu de l'ambassade de France.
Le départ, ça a été très très rapide. On a vu nos noms s'afficher le soir, la veille.
Maria Macares.
Et au moment du départ, c'est vrai qu'il fallait qu'on montre nos papiers, c'était un peu tendu. Est-ce qu'on passe, on passe pas
Et alors ce voyage de l'ambassade jusqu'à la frontière thaïlandaise va durer un certain nombre de jours,
ouais.
3 jours je crois. Comment se passe le voyage? Est-ce que lorsqu'on traverse le pays pour se rendre à la frontière vers Phnom Penh, on voit ce que c'est que le Kampuchea démocratique de Pol Pot?
Non, on ne le voit pas encore, c'est vide. Ce qu'on voit c'est un petit peu la désolation, hein. C'est les animaux qui galopent partout, les cochons, les chiens, c'était... Les voitures abandonnées, les motos. Nous, on était dans des camions non bâchés, donc on a un peu souffert de chaleur et de pluie. Il y avait un bébé qui était mort, qui n'a pas supporté le voyage. On avait l'impression que parfois, il se perdait. On tournait un peu en rond, on se demandait qu'est-ce qui nous attendait. Parfois, on arrivait dans un village à 2-3 heures du matin, mais on n'a pas rencontré de population. Ou aussi, on a rencontré vraiment très peu, où j'ai pu faire le troc un petit peu, échanger un moustiquaire contre du sucre de palme, des choses comme ça.
Nous, on fait partie du deuxième convoi, le dernier convoi. J'ai une cartouche de cigarette, c'est du Nil Rouge. Je la donne à un journaliste cambodgien qui était avec nous, Dit Pran.
Celui dont l'histoire est racontée dans La Déchirure.
Et on sait qu'ils sont dans la merde. Mais on n'a toujours pas conscience qu'ils vont mourir. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Mais quelqu'un comme Patrice Debert, qui est un ami, qui est mon témoin de mariage à l'ambassade de France pour épouser l'âne, ce type n'est pas idiot. Et lui non plus n'y croit pas. Et c'est une erreur qu'il le poursuivra jusqu'à sa mort. Mais il n'y croit pas. Il ne veut pas y croire. Mais personne ne veut y croire. On ne peut pas avoir passé autant d'années à taper sur un gouvernement fantoche et à s'imaginer que le gentil qui luttait va se révéler encore plus méchant. Personne n'a fait ce travail intellectuel. C'est beaucoup plus tard. Et extrêmement peu de gens se sont excusés.
Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que la France a obtenu en échange de tous ces Cambodgiens livrés aux Khmers rouges?
Rien. Ceci dit, je ne peux pas croire un instant que la France n'avait pas de contact avec les Khmers rouges bien avant qu'ils n'arrivent aux portes de la ville. Ou alors, ils sont nuls. On a échangé les Cambodgiens contre quoi? Nos vies à nous, J'en suis même pas persuadé. Je pense que c'est contre rien.
Donc la question restera posée jusqu'au bout et elle pèse sur nos consciences. C'est l'objet d'un débat encore aujourd'hui dans certains cercles diplomatiques, philosophiques, religieux, de savoir si on a pris la bonne décision en disant à ces pauvres gens « on vous chasse pas, mais si vous restez, on va tous être massacrés. Si vous sortez, il y a une chance peut-être infime que, en discutant avec eux, ils vous laissent la vie sauve, ils vous épargnent la vie. On ne sait pas. »
Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais hésiter à sauver un nourrisson. Eh bien, je me pose la question. Quel est le jeune homme de 35 ans qui s'est trouvé derrière le portail de l'ambassade avec les gendarmes et qui voit arriver une grosse Mercedes, vite teintée, une porte qui s'ouvre, une jeune femme d'une trentaine d'années, à peine, habillée en noir, avec un pantalon, des hauts talons qui claquaient, et qui dit « Je suis Madame Longue-Borette, laissez-moi rentrer s'il vous plaît. » Et elle portait son nourrisson, un nourrisson qui n'avait pas un mois. Je lui dis « Madame, vous avez un passeport étranger, français ?» Elle me dit « Non ». Elle était désespérée. Et moi aussi. Alors elle me dit, prenez mon bébé, sauvez mon bébé. Je peux vous dire que si ça, ça m'était arrivé, j'aurais sauvé le bébé. Or le jeune homme de 35 ans, qui vous l'avez compris, était moi-même, ne l'a pas fait. J'ai fermé les yeux pour pas qu'elle me lance le bébé par-dessus le portail. C'est terrible. Or, vu la situation, l'homme que j'étais à ce moment-là, avec ce qui se passait autour, a eu cette réaction. C'est une réaction que, si je devais aujourd'hui porter un jugement sur l'histoire, sur les gens qui le consulent, etc., je dirais, celui qui a fait ça, il est condamnable. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est insupportable. Or, les choses se font comme ça. Dans l'action, dans le feu douloureux des événements. Et on devient, dans ces situations-là, une personne parfois dont on peut être fier et parfois dont on a honte. Et voilà, et c'est ça les choses.
40 ans après, quand on accuse la France d'avoir commis un crime de bureau, comment vous réagissez ?
Moi, je ne vois pas les choses comme ça.
Charles Malot, alors numéro 2 de l'ambassade de France à Pékin au moment des faits.
Je réagis comme réagirait n'importe quelle personne sur le terrain. La réalité des choses. Les grilles sont ouvertes et il y a 800 Cambodgiens dedans. Que peut faire la France ?
Donc il n'y a pas de faute de morale, il n'y a pas de faute politique, il n'y a pas de...
Je ne pense pas, non. Non, non, je ne pense pas.
La culpabilité est noire sur blanc. J'ai écrit partout. J'ai écrit au président Clinton, qui ne m'a même pas répondu. J'ai écrit à notre président, évidemment, vous pensez qu'il n'allait pas me répondre. Et c'est de là, en 1999, que j'ai déposé plainte au tribunal TGI de Créteil. Je n'avais en principe pas le droit de porter plainte, étant donné, paraît-il, que je n'étais pas la victime directe. Comment voulez-vous que la victime directe puisse venir, étant donné qu'il est mort, je ne sais pas où, dans un trou ? Comment voulez-vous qu'il vienne porter plainte ? Je suis sa femme, je pense que je suis la personne la plus directe qui peut porter plainte pour mon mari. Il a fallu que je porte plainte pour séquestration, torture de mon mari. Alors là, le dossier a été accepté. Et c'est pour ça que pendant 15 ans maintenant, 2000 à 2015, la juge actuelle vient de me répondre toujours sur cette ligne de torture-séquestration, elle a été à Phnom Penh pendant une semaine faire une enquête. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez aller trouver 40 ans après des preuves là-bas, même s'il sait, personne n'osera vous le dire. Et ce qui était fut le cas. Alors du coup, elle est revenue en disant, elle a conclu non-lieu parce que elle n'a pas trouvé de preuves que mon mari a été torturé et que mon mari soit mort. Donc, il n'y a rien d'autre à poursuivre. On clôt le dossier, non lieu. C'est comme si on a tué mon mari ainsi que les 800 autres personnes une seconde fois.
Il n'est pas possible aujourd'hui, aux yeux de la justice française, de caractériser le fait que, intentionnellement, des agents publics français, en connaissance de cause, aient livré à la mort celui qui était son mari.
William Bourdon, un des avocats de Billong Hung.
Ça, c'est l'expertise juridique. Maintenant, toutes ces investigations n'ont pas été faites pour rien, parce qu'elles ont permis aussi à ma cliente de reconstituer, même si c'est pas complet, le puzzle des événements. Les lâchetés, les silences, les aveuglements. Et c'est pour ça qu'on a demandé, il y a déjà plusieurs mois, au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, de se prononcer. Et peut-être pas d'aller jusqu'à un acte de repentir spectaculaire, mais au moins qu'il y ait l'expression d'une forme d'excuse ou d'une forme de regret à l'égard de ma cliente de ce qui a été fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Et je trouve que la moindre des choses eût été de proposer un rendez-vous à l'occasion duquel on aurait reçu ma cliente. On lui aurait dit, écoutez madame, tant d'années après, il n'a pas été possible de... Mais la France regrette ce qui s'est passé. Voilà, c'est des mots simples. Et on est toujours étonné que des mots simples ne soient pas envisagés, prononcés dans des situations de cette nature. La France a manqué à ses devoirs. C'est une tâche sale. C'est une tâche sombre sur l'histoire française. Il n'est pas trop tard pour bien faire.
Que dit Giscard de tout ça?
Ben, vous allez lui demander. Giscard, il fait partie de ces grandes figures de l'histoire politique française qui, crépuscule de leur vie, continuent obstinément à se refuser à faire partager à l'opinion publique française, à leurs citoyens, un certain nombre de choses qu'ils ont gardées pour eux. Donc, bonne chance si vous arrivez à obtenir de lui quelque chose.
Merci à Billong Hung, William Bourdon, Charles Malot, François Bizot, Arnaud Borel, Claude Martin, Serra, Vanta Talisman, Nassir Abdul Karim et à Maria Macares. Merci également à John Gunther Dean, Jean-Marie Cambaceres, François Ponchot, John Swain et James Burnett. Huis clos à Phnom Penh. Prise de son Benjamin Vignal, mixage Éric Boisset, réalisation Séverine Cassard, un documentaire d'Alain Lefkovitch.
Une émission comme d'habitude à écouter ou réécouter sur le site de France Culture. Demain, nous continuons à vous parler du Cambodge avec le prince changeant, celui qui était dans la toile, pourrait-on dire, de ce documentaire au loin, à savoir eh bien, le Norodom Sihanouk. C'est le thème de l'émission de demain de La Fabrique de l'Histoire.